Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, nous avons aujourd'hui ce bel évangile de la Providence. Et l'une des grandes manifestations de la Providence en nos temps, ce sont bien sûr les apparitions de la Très Sainte Vierge à Fatima. Dans 3 jours, nous fêterons le centenaire de l'apparition de Notre-Dame le 13 septembre 1917. C'était la 5e apparition de la Vierge Marie, ce qui fait qu'un grand nombre de personnes s'étaient déplacées, les apparitions ayant été annoncées comme devant se produire le 13 de chaque mois, de mai à octobre. Dès l'aube de ce 13 septembre, toutes les routes menant à Fatima étaient noires de monde. Quelques curieux, mais surtout une immense foule de pèlerins qui marchaient vers la Cova d'Airia, le lieu des apparitions, en récitant le chapelet. François, Jacinthe et Lucie eurent du mal à se frayer un chemin à travers la foule qui les pressait. Ils avançaient péniblement, aidés par quelques messieurs qui leur ouvraient le passage dans la foule. On se prosternait à genoux devant eux pour les implorer de transmettre leurs intentions à Notre-Dame. Toutes les misères et angoisses humaines leur étaient présentées. Quelques-uns criaient même aux 3 enfants du haut des arbres et des murs où ils étaient montés. Lucie écrira plus tard, « Lorsque je lis maintenant dans le Nouveau Testament les scènes si ravissantes du passage de notre Seigneur à travers la Palestine, je me souviens de celles auxquelles notre Seigneur me fit assister sur ces pauvres chemins et routes d'Aljustrel à Fatima et à la Cova d'Airia. Et je rends grâce à Dieu en lui offrant la foi de notre bon peuple portugais. » En arrivant, les enfants commencèrent à réciter le chapelet avec la foule. C'est Lucie qui entonnait et les gens répondaient. Il y avait maintenant entre 25 et 30 000 personnes à attendre la venue de Notre-Dame. À midi, heure solaire, le silence se fit. Subitement, des cris de joie retentirent, des bras se levèrent. Un globe lumineux se déplaçait d'est en ouest, glissant lentement et majestueusement dans l'espace. Puis le globe s'arrêta sur le chêne vert de l'apparition. Alors l'éclat du soleil diminua, l'atmosphère devint jaune d'or, le jour baissa tellement que certains rapportèrent avoir distingué les étoiles dans le ciel. Tous ces phénomènes furent observés par 2/3 environ des fidèles. Les autres ne virent rien, peut-être parce qu'ils n'étaient pas en état de grâce. Quant à voir la Vierge Marie elle-même, ce privilège ne fut réservé qu'aux 3 enfants. « Que veut de moi votre grâce ?» demanda Lucie. « Continuez à dire le chapelet, dit Notre-Dame, afin d'obtenir la fin de la guerre. » En octobre, notre Seigneur viendra, ainsi que Notre-Dame des Douleurs et du Carmel, Saint-Joseph avec l'enfant Jésus, afin de bénir le monde. Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde, portez-la seulement pendant le jour. Il s'agit de la corde que les enfants s'étaient mise autour des reins pour faire pénitence. Lucie, lui ayant transmis les demandes de guérison qu'on lui avait faites, Notre-Dame dit qu'elle guérirait les uns, mais que pour d'autres, elle ne ferait rien, car notre Seigneur ne leur fait pas confiance. Lucie demanda aussi que faire de l'argent que les fidèles déposaient au pied du chêne vert. Notre-Dame dit de prendre la moitié pour construire des brancards de procession et que l'autre moitié soit pour aider à construire une chapelle. Lucie montra aussi à Notre-Dame un flacon de parfum qu'un fidèle voulait lui offrir. « Cela ne convient pas pour le ciel, » répondit Notre-Dame. Alors elle commença à s'élever et elle disparut comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on vit de nouveau le globe lumineux qui portait la Vierge s'élever dans les airs et s'éloigner en direction de l'est d'où il était venu. Pendant tout le temps de l'apparition, qui dura 15 minutes, la plupart des assistants avaient eu un merveilleux spectacle. Une pluie de pétales blancs ou de flocons de neige ronds et brillants qui descendaient lentement et qui disparaissaient en arrivant vers le sol. C'était l'image des grâces qui nous parviennent par la médiation de Notre-Dame. Un autre phénomène agréable à voir et étonnant lui aussi fut aperçu. Par trois fois, au pied du chêne vert où était Notre-Dame, une sorte de nuée s'éleva dans l'air jusqu'à une hauteur de 5 ou 6 mètres, comme si des anges invisibles encensaient la Vierge Marie. Ces prodiges qui eurent des milliers de témoins firent taire quelque temps la presse maçonnique anticléricale qui n'osait déjà plus parler de supercherie, surtout que plusieurs de ces phénomènes avaient déjà été observés le 13 août, lorsque Notre-Dame était venue malgré l'absence des enfants. Les ennemis de l'Église préféraient attendre le grand miracle annoncé pour le mois suivant pour voir ce qui allait se passer. Que retenir de cette cinquième apparition ? Tout d'abord, les phénomènes atmosphériques. C'est exceptionnel. Habituellement, dans les apparitions de Notre-Dame, seuls les voyants observent quelque chose. Si la Sainte Vierge a voulu ces phénomènes, c'est certainement pour encourager, réconforter ce bon peuple de fidèles qui avait marché des fois pendant des jours pour arriver à la Cova d'Aïria. Et puis probablement aussi, c'était pour préparer tout le monde au grand miracle du soleil qui aurait lieu le 13 octobre suivant. Quant au message, la Sainte Vierge, ce jour-là, reprend les deux demandes essentielles, réciter le chapelet et se sacrifier pour les pécheurs. Voyons aujourd'hui en quoi ces deux demandes résument la dévotion au cœur immaculé de Marie pour notre époque. Cette dévotion, n'oublions pas, qui est le dernier moyen de salut, il n'y en aura plus d'autre qui sera donné aux hommes jusqu'à la fin du monde. Pour comprendre, il faut revenir à la signification du mot « cœur » dans la Sainte Écriture. Le cœur, il désigne non seulement le muscle de chair, non seulement ce que nous comprenons, que nous disons être le siège de nos sentiments, mais surtout le mot « cœur » signifie toute la personne, et en particulier l'âme, enflammée de charité. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Eh bien, la Très Sainte Vierge, immaculée dans sa conception, d'une correspondance totale d'amour au moindre mouvement du Saint-Esprit, la Sainte Vierge est vraiment le chef-d'œuvre de la Très Sainte Trinité, l'image parfaite de Dieu et donc le modèle parfait de toute créature après notre Seigneur. À la fête du 22 août, fête du cœur immaculé de Marie, dans l'oraison, l'Église nous fait demander la grâce de vivre selon le cœur de Dieu en célébrant la fête du cœur immaculé de Marie. Ut eiusdem immaculati cordis festivitatem devotamente recolentes secundum cortuum vivere valeamus. L'Église nous fait comprendre ici que le moyen de vivre selon le cœur de Dieu, c'est l'imitation des vertus de Notre-Dame. Notre Seigneur nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Eh bien, nous y arriverons, nous y tendrons plutôt, eh bien, en imitant la Très Sainte Vierge Marie, qui est le modèle parfait de Dieu, l'image parfaite de Dieu. Avoir une vraie dévotion envers la Sainte Vierge, envers le cœur immaculé de Marie, c'est donc, comme le dit Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, par elle, avec elle, en elle et pour elle, nous conformer toujours plus, par amour, à la volonté de notre Seigneur du moment présent. Cela, c'est la dévotion pour tous les temps. Mais à Fatima, la Très Sainte Vierge vient ajouter une précision pour aujourd'hui, de la même manière qu'à Paray-le-Monial, notre Seigneur était venu annoncer une précision par rapport à la dévotion au Sacré-Cœur. C'est tout à fait parallèle, bien sûr. Aujourd'hui, le péché a submergé le monde, parce qu'on n'a fait aucun cas des demandes de Notre-Dame. Alors la Russie a répandu ses erreurs dans le monde entier, comme elle l'avait dit. C'est spécialement cet athéisme social qui conduit les hommes, qui conduit nos pays à l'apostasie. Jamais depuis notre Seigneur, les âmes n'étaient tombées en enfer aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Mais la Sainte Vierge est reine de miséricorde, et pour empêcher les âmes de tomber en enfer, elle vient nous demander nos prières et nos sacrifices. Mais quel sacrifice faire? Lorsque l'ange du Portugal et la Sainte Vierge ont demandé des sacrifices aux trois enfants, alors ils ont rivalisé de générosité, comme savent souvent le faire les enfants, donnant leur repas de midi à un pauvre, se privant de boire toute la journée en pleine canicule, mettant une corde autour de leurs reins sous leurs vêtements, jour et nuit. Le 13 septembre, la Sainte Vierge leur dira « Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il faut les modérer. Portez la corde seulement pendant le jour. » Les sacrifices que le Saint-Esprit inspire aux saints ne sont pas les sacrifices qu'il demande à tout le monde. Sœur Lucie, au nom de notre Seigneur lui-même, pour qu'on ne se méprenne pas, dira plus tard, lorsqu'elle sera religieuse, « Beaucoup donnent au mot pénitence le sens de grandes austérités, et comme ils ne se sentent ni force ni générosité pour cela, ils se découragent. » Et il se laisse aller alors à une vie de tiédeur et de péché. Et notre Seigneur lui-même précisa à sœur Lucie le sacrifice qu'exige de chacun l'accomplissement de son propre devoir et l'observance de ma loi, voilà la pénitence que je demande et que j'exige maintenant. Ne disons pas trop vite, ce n'est pas grand-chose. Pratiquer les commandements de Dieu aujourd'hui dans notre monde apostat, faire son devoir à chaque instant, c'est au contraire la porte ouverte à des sacrifices illimités. Et dans l'esprit de Fatima, nous sommes appelés à offrir ces sacrifices au cœur immaculé de Marie pour la conversion des pécheurs. Donc, pour résumer, si vous voulez, la dévotion au cœur immaculé de Marie pour tous les temps, c'est de faire la volonté de notre Seigneur par Marie, avec Marie, en Marie, pour Marie. La dévotion au cœur immaculé de Marie pour aujourd'hui, c'est la même chose, mais en offrant cela au cœur immaculé de Marie, en réparation des péchés qui enfoncent des épines dans son cœur, et pour la conversion des pécheurs. Et ce 13 septembre, comme le 13 mai, le 13 juin, le 13 juillet et le 19 août, la Sainte Vierge dira que le grand moyen pour pratiquer ce programme, c'est le chapelet. En ce jour, elle dit deux choses par rapport au chapelet. Elle fait comprendre deux choses. Tout d'abord, en annonçant que le 13 octobre, les enfants verront Saint Joseph avec l'enfant Jésus, Notre-Dame des Douleurs et du Carmel, ce qui figure les mystères joyeux, douloureux et glorieux du rosaire. La Vierge Marie voulait rappeler que le chapelet n'est pas une prière mécanique, mais qu'il consiste d'abord à méditer et contempler les exemples de la vie de Jésus, Marie, Joseph pour les reproduire dans notre vie. Pour que notre vie soit, si vous le voulez, une succession de mystères joyeux, douloureux et glorieux. C'est pour nous convertir que nous devons égrener les Ave Maria pour devenir d'autres Christ, d'autres Marie, d'autres Joseph. Le chapelet est la parfaite école de vie chrétienne. Ensuite, la Sainte Vierge demande une fois de plus aux enfants de réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre. C'est que le chapelet, depuis Saint Dominique, est aussi le grand recours de l'Église dans tous les malheurs de la chrétienté. Et aujourd'hui, la guerre, c'est le mondialisme. C'est l'avancée de l'islam. C'est cette crise dans l'Église qui n'en finit pas. Nos chapelets nous permettront de traverser toutes ces épreuves sans perdre notre âme. Et ils nous permettront d'obtenir la fin de ces épreuves à l'heure de Dieu quand le bon Dieu le voudra, bien sûr. La conversion de la Russie aura lieu quand un nombre suffisant de catholiques offriront leurs sacrifices et accompliront les demandes de Notre-Dame, dit sœur Lucie. Alors que les ennemis de notre Seigneur continuent plus que jamais leur œuvre de destruction, soyons d'autant plus zélés pour répondre aux demandes de Notre-Dame de Fatima. Non seulement par la communion réparatrice des premiers samedis que la Vierge Marie viendra révéler plus tard à Pontevedra, mais aussi par l'offrande des sacrifices de nos journées à son cœur immaculé pour la conversion des pécheurs. Que ce soit notre résolution en ce temps de reprise de nos activités, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.